Bienvenue sur Radio Créaum. Vous êtes à l'écoute d'un extrait du colloque international « La tuerie de l'école polytechnique 20 ans plus tard, les violences masculines contre les femmes et les féministes », colloque qui a eu lieu à l'UQAM les 4, 5, 6 décembre 2009.
Merci beaucoup, Dominique Payette. Je passe maintenant la parole à Diane Lamoureux. Elle est professeure de philosophie politique au département de sciences politiques de l'Université Laval à Québec. Ses travaux récents portent sur la citoyenneté, la démocratie, les limites des politiques identitaires dans les sociétés occidentales. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages et articles sur le féminisme québécois et sur les théories féministes. J'en cite quelques titres. « Fragments et collages » en 1986, « Citoyenne, femme, droit et vote, de vote et démocratie » en 1989, « La mère patrie » en 2001, qui ont tous été publiés aux éditions du Remus Ménage. Et elle a aussi coédité un ouvrage collectif, « L'autonomie des femmes en question, antiféminisme et résistance des femmes en Amérique et en Europe », paru aux éditions de l'Harmattan en 2006. Sa communication s'intitule « Entre commémoration et banalisation ».
Bonjour, merci aux personnes qui ont organisé ce colloque. Merci aussi à vous toutes qui êtes là. Je vais d'abord faire une petite mise en contexte parce que ça fait 20 ans que je n'ai pas participé à des activités publiques sur Polytechnique. Bon, évidemment, lorsque ça s'est passé, j'ai participé à une activité publique le 14 décembre, donc quelques jours après seulement. J'ai participé à une activité publique, et je l'ai même organisée en fait, avec d'autres, principalement parce qu'il me semblait que, comme le disait Judy, on ne pouvait pas être uniquement dans le deuil, il fallait aussi politiquement s'exprimer dans ces circonstances-là. C'est une activité qui a eu lieu à l'Université Laval, donc le 14 décembre. C'est une activité c'était une activité de mise en commun et de réflexion qui avait été introduite par un très beau texte de Jeanne Lapointe, qui est maintenant décédée, et qui insistait sur les sentiments contradictoires, qu'il était normal que nous ayons à la fois de la colère et de la douleur, du chagrin et de la révolte. Et je pense que 20 ans plus tard, c'est important d'avoir aussi présentes à l'esprit ces émotions contradictoires, pas pour s'empêcher de penser, mais pour penser avec ces émotions contradictoires, pour penser à la fois la vulnérabilité et la force, pour penser que, oui, il y a une guerre des sexes, mais ce n'est pas nous qui la menons, ce sont toutes les forces de résistance conservatrice et patriarcale qui la mènent. Et que, dans cette guerre-là, nous sommes vulnérables, mais nous sommes aussi fortes, fortes de nos solidarités, fortes de nos luttes, et forte des espoirs que nous portons. Et il me semble que c'était important de faire quelque chose il y a 20 ans, comme c'est important de faire quelque chose maintenant, parce qu'à cette époque-là, nous étions confrontés à des gens qui justifiaient le tueur, les fameuses lignes ouvertes dont parlait Dominique tout à l'heure. Et il est important de dire que non, nous n'avions pas été trop loin, que nous n'avions pas encore parcouru assez de chemin vers la liberté et l'égalité des femmes, que c'était encore une promesse et non une réalité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire avec le recul des ans de ces événements et de leur empreinte dans la mémoire collective québécoise, une société dont la devise, et je me souviens, mais qui fait tout pour oublier, étant donné les faiblesses de l'enseignement en histoire. Une société qui commémore, mais sans réfléchir sur l'événement, se contentant de nous le reprojeter, comme l'a également répété Dominique. Et une société où l'événement, on passe à autre chose après le 6 décembre, s'est remplacé par le maelstrom de la nouvelle et des faits divers qui se succèdent dans nos bulletins dits de nouvelles. Une société dont l'Assemblée nationale se gargarise de l'égalité des femmes et des hommes comme valeur fondamentale de la société québécoise, mais qui n'a pas jugé bon de se doter d'une véritable politique de lutte aux violences contre les femmes, qui ne s'émeut pas de la surreprésentation des femmes parmi les plus pauvres de notre société, qui n'hésite pas à cantonner les femmes dans des rôles d'aidantes naturelles face à des services publics de plus en plus atrophiés, qui est tellement égalitaire qu'elle refuse toute réforme du mode de scrutin qui obligerait une composition de l'Assemblée nationale à part égale entre les femmes et les hommes, et qui a présenté la mise en œuvre de l'équité salariale dans le secteur public comme un obstacle à la bonification des conditions de travail des travailleuses et travailleurs de ce secteur-là. Bref. Je suis toujours outrée quand je vois sur les photographies des débats, les images télé des débats à l'Assemblée nationale, ce ruban blanc qui vient faire rosette au veston des revers de nos politiciens et politiciennes pour remplacer, peu de jours après, le coquelicot du 11 novembre, une boucherie impérialiste qu'on célèbre encore sans parler de son caractère de boucherie. Et d'autant plus qu'on a profité de cet événement tragique pour nous seriner l'idée insidieuse du post-féminisme. Avec le recul des ans, je dirais que ce 6 décembre 89 et que le geste de ce tueur représente le début du ressaisissement de la droite conservatrice au Québec. Une droite qui avait dû plier les chines lors de la Révolution tranquille. Encore plus que la énième ressurgence de l'antiféminisme, ce que c'est aussi, comme nous l'a rappelé Micheline Dumont hier, c'est l'acte de renaissance de la droite qui a été signé par le tueur. Il n'est pas anodin que ce soit des femmes dérogeant au rôle traditionnellement dévolu aux femmes, qui en soient les premières victimes. Qu'est-ce qui symbolise mieux que des femmes soumises, assignées à une place subalterne, tenues dans l'ignorance, n'ayant accès, selon la belle formulation de Paola Tabette, ni aux outils, ni aux armes, assimilés aux enfants dans leur statut de mineur, le respect, qu'est-ce qui symbolise mieux que cela, le respect de la tradition et la reproduction des inégalités, ces fameuses tropes conservatrices. Cet édifice avait commencé à être ébranlé au Québec comme ailleurs. La Révolution tranquille, qui voulait nous sortir de la grande noirceur, celle qui était décrite par Sol comme la grande noire sœur. J'aime beaucoup Sol, mais ça, d'une certaine façon, ça a un côté quand même assez antiféministe. N'avait pas prévu de rôle pour les femmes, puisqu'elles étaient la grande noire sœur. Mais celles-ci s'en sont donné un. En quelques années, parce que nous avons lutté, ce n'est pas venu naturellement. Ça ne faisait pas partie du programme de la Révolution tranquille, ni des années qui ont suivi. Donc, je le répète, parce que nous avons lutté, les lois civiles qui assuraient la dépendance juridique, personnelle et économique des femmes mariées ont cédé la place à des lois qui garantissaient leur autonomie personnelle. Des femmes ont fréquenté l'école et ont voulu exercer des métiers et professions pour lesquels elles se sont formées. Les femmes qui travaillaient ont déclaré qu'elles non plus n'étaient pas nées pour un petit pain. Ils voulaient l'égalité salariale et professionnelle. La fatalité de la maternité a été transformée en choix et l'autonomie de décision des femmes en matière d'avortement venait d'être déclarée quelques mois plus tôt dans le jugement d'aigle de la Cour suprême. La loi, l'ordre et la nature qui a si bon dos avaient été perturbés par nos luttes. Il fallait justement nous rappeler à l'existence de cet ordre patriarcal. Comme ailleurs dans le monde, restaurer l'ordre passe d'abord par la mise au pas des femmes. Dans la logique du travail, famille, patrie qui se déploiera par la suite. Les féministes étaient allées trop loin, puis ce sera ensuite le tour des syndicalistes et des immigrants. Les années de l'éloge de l'inégalité à l'ère néolibérale pouvaient enfin commencer. Et c'est toujours avec cet éloge de l'inégalité, qui passe d'abord par l'éloge de l'inégalité entre les sexes, que commence le discours de droite. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avait si bien dit Olympe de Gouges en 1789, la matrice de toutes les inégalités sociales, c'est la matrice de l'inégalité entre les femmes et les hommes. D'où, il me semble, les enjeux d'interprétation et les remèdes sociaux aux événements de Polytechnique. S'agissait-il d'une crise de sécurité publique, d'un geste de violence dans les institutions d'enseignement, de l'usage criminel d'une arme à feu, d'un crime misogyne, du geste isolé d'un tueur fou, d'un acte terroriste, comme s'il fallait choisir et qu'une explication annulait l'autre. Mais il est certain qu'une délimination de l'acte entraîne une canalisation de l'action publique. C'est ainsi que Polytechnique est devenu un outil pour changer les méthodes d'intervention et de formation de la police. Après Polytechnique, les manuels de criminologie ont développé des protocoles d'intervention et l'école de police a délaissé la police sociale au profit des Rambo. C'est ainsi que des mesures de surveillance ont été mises en place et que Polytechnique a trouvé sa place dans les listes énumérant les crimes violents dans les institutions d'enseignement. Que ce soit Concordia en 92 ou Dawson en 2005 ou encore Virginia Tech. Évidemment, c'est des crimes horribles. Mais est-ce des crimes de même nature? C'est ainsi qu'on a eu le registre des armes à feu qu'un gouvernement conservateur veut maintenant abolir. C'était pas inutile d'avoir tout ça, mais ça passe à côté du problème fondamental, le problème fondamental d'un crime misogyne, d'un acte terroriste contre les femmes, d'une violence contre les femmes qui vient répéter dans l'espace public que nous avions à peine commencé à investir la violence domestique qui se reproduit chaque jour dans l'espace privé. Je me souviens d'avoir été attentive en lisant les journaux après Polytechnique au nombre d'assassinats de femmes par leur conjoint ou ex-conjoint dans ces drames dits privés. Ça s'additionne très vite. C'est des statistiques macabres. Et il me semble que très tôt, on a voulu estomper ce qui pouvait être difficilement explicable pour une société qui se pensait de gauche et égalitaire, c'est-à-dire que nous étions en fait profondément une société de droite et une société où la valorisation de l'égalité servait de paravent au maintien. La valorisation discursive des égalités servait de paravent au maintien des manifestations concrètes des inégalités. On a donc tenté de psychologiser le geste. C'était un tueur fou. Il était irresponsable. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Comme on psychologise chaque jour le geste de tous ces tueurs à petite échelle qui massacrent des femmes dans l'intimité de l'univers domestique. L'acte a aussi été désinséré de son contexte. Après tout, c'était peu de temps après une autre attaque misogyne, pas terroriste celle-là, qui avait pris des formes judiciaires. Vous vous souvenez de cet ex-conjoint qui voulait empêcher son ex-compagne, donc avoir encore un contrôle sur elle après la rupture pour l'empêcher d'avorter. Et ça a dû se rendre en Cour suprême parce que nous avons eu des juges dans les cours au Québec qui ont même invoqué la Bible comme si c'était un texte judiciaire pour justifier la demande de cet homme violent et contrôlant. Il a fallu qu'il tabasse sa vieille propriétaire pour qu'on le reconnaisse publiquement comme un individu violent, comme si tabasser sa conjointe ne suffisait pas à en faire un individu violent. Donc, on nous l'a présenté comme inexplicable, comme si la misogynie n'était pas inexplicable, n'était pas explicable. Et on a surtout fait beaucoup de bruit, le bruit des médias non analytiques, comme d'ailleurs, et ça m'a frappé, le repassage en boucle. On n'était pas encore à l'ère des chaînes 24 heures sur 24, mais quand même, à chaque téléjournal, le repassage en boucle des mêmes nouvelles, comme on nous a fait le coup le 11 septembre 2001. Donc, et avec également, donc, faire une cacophonie de bruits médiatiques qui ne veulent rien dire, qui n'ont pas de sens, en même temps qu'on nous intimait de nous taire, puisque les féministes n'ont pas eu droit à la parole publique dans les jours qui ont suivi Polytechnique. Et il me semble, je vais conclure sur ça, il me semble que c'est très bon qu'on ait fait un mémorial aux 14 femmes qui ont été assassinées à Polytechnique le 6 décembre, mais j'ai pris la peine d'aller voir ce qui était marqué sur la plaque officielle de la ville de Montréal. Et c'est l'art de la litote dans toute sa splendeur. Ça dit, en mémoire de l'événement tragique survenu à l'école polytechnique le 6 décembre 1989, afin de promouvoir les valeurs de respect et de non-violence. Ça, c'est la plaque officielle. Pas un mot encore aujourd'hui sur le fait que c'était des femmes qui avaient été assassinées et que c'était des femmes qui avaient été assassinées dans un crime politique contre des femmes qui ne se tenaient pas à la place subalterne qu'une société patriarcale leur assigne. Merci.